Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
Comment réussir à raisonner faux? Il y a des recettes et on vous les expose immédiatement. Super Fail à votre service. Grâce à vous, Olivier Sibony, bonjour.
Bonjour.
Olivier Sibony, vous êtes professeur à HEC Paris et vous avez notamment publié « Vous allez commettre une terrible erreur » aux éditions Flammarion, avec tout un raisonnement que l'on va exposer sur les biais cognitifs, c'est-à-dire ce qui peut nous tromper dans nos manières de raisonner, comme par exemple les illusions auditives. En voici une. Alors voilà, ça c'est une illusion auditive, vous l'entendez Olivier Sibony, ça accélère, en tout cas on a l'impression que ça accélère, et en fait ça accélère pas du tout.
Ce qui est incroyable, parce qu'en fait on peut le réécouter plusieurs fois, on aura toujours l'impression que ça accélère, alors que même on sait maintenant, parce que vous nous l'avez dit et qu'on vous fait confiance Guillaume Erner, que ça n'accélère pas.
C'est David Jacoboviez
qui nous le dit. On va avoir tendance à penser, on sait que ça n'accélère pas, et néanmoins on peut le réécouter des dizaines de fois, on va toujours penser que ça accélère. C'est le même phénomène qu'on a avec les illusions d'optique, et c'est en fait le même phénomène qu'on a avec les biais cognitifs. C'est-à-dire que vous pouvez lire des tas de choses sur les biais cognitifs, par exemple vous pouvez lire que vous êtes sujet à l'excès de confiance ou au biais de confirmation. Vous le saurez maintenant, vous aurez appris quelque chose sur votre capacité à vous tromper, et néanmoins, ça ne vous immunisera absolument pas contre ces erreurs. Vous continuerez à les commettre de la même manière, exactement comme vous continuez à entendre l'illusion auditive.
Alors voilà, vous avez notamment analysé, Olivier Sibony, ce qui nous conduit à faire des erreurs avec des raisonnements qui nous paraissent évidemment tout à fait vrais, c'est-à-dire que c'est une manière de voir que des raisonnements peuvent conduire à des erreurs de bonne foi. Vous avez prononcé deux mots, les biais cognitifs et également les biais de confirmation. Et donc, il va falloir nous définir, Olivier Sibony, ce que ces deux termes désignent.
Alors, les biais cognitifs en général, d'abord, il faut tordre le cou à la connotation négative du mot biais. Souvent, quand on dit biais, on pense les biais sexistes, les biais de genre, les biais racistes, etc. Ça existe aussi, bien sûr, mais c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle de biais qui sont neutre du point de vue moral, entre guillemets, qui sont simplement des erreurs, généralement des erreurs de bonne foi, et qui vont nous conduire d'une manière prévisible à nous tromper. Je prends l'exemple du biais de confirmation dont vous parliez. On sait, parce qu'on l'a testé des centaines de fois, qu'à partir du moment où on a une hypothèse en tête ou une idée en tête, on va avoir tendance à ignorer les choses qui nous contredisent et à donner plus d'importance et à prêter plus d'attention aux choses qui nous confortent dans notre opinion de départ. Si par exemple vous regardez votre groupe d'amis sur un réseau social, vous allez vous renforcer dans vos idées existantes parce qu'ils vont vous dire des choses qui a priori correspondent à ce que vous pensez. Et quand vous verrez quelque chose qui vous déplaît ou qui vous surprend, vous allez avoir tendance à le prendre avec un plus gros grain de sel, à le mettre plus en doute que quand vous voyez quelque chose qui vous conforte dans vos opinions.
Alors quel type d'erreur ça peut donner, un biais de confirmation?
Alors ça donne des tas d'erreurs qui vont de la plus basique à la plus spectaculaire. J'en prends un exemple que je trouve frappant, que j'ai découvert en faisant la recherche pour ce livre. Les experts de la police scientifique, les experts en empreintes digitales qui comparent des empreintes digitales pour dire là j'ai relevé une empreinte, enfin vous avez relevé pour moi une empreinte sur une scène de crime, ici j'ai un spécimen qui a été donné par un suspect et je dois dire si ça correspond ou si ça correspond pas. On n'a pas l'impression comme ça que ça soit une tâche qui laisse beaucoup de marge à l'interprétation. Et bien pourtant, il y a un chercheur anglais qui s'appelle Itiel Dror qui s'est amusé à piéger ces experts-là en les biaisant, en leur donnant un biais de confirmation, c'est-à-dire en leur soumettant des empreintes après leur avoir dit « Regarde, mais de toute façon, le suspect a un alibi, donc a priori, ça ne doit pas correspondre. » Ou au contraire, « Regarde, mais de toute façon, le suspect a déjà avoué, donc a priori, ça doit correspondre. » Et selon qu'on leur dit une chose ou l'autre, les mêmes experts, qui vont regarder la même empreinte à quelques mois d'intervalle sans savoir que c'est la même, vont avoir une conclusion qui est assez souvent différente. Donc, l'idée qu'on nous a mise en tête va non seulement changer la manière dont on interprète les choses, mais va changer jusqu'à ce qu'on observe, jusqu'à la réalité sensible.
Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où on a tendance à commettre des biais de confirmation, Olivier Cibony ?
Il y en a toujours, en particulier quand on est très convaincu qu'on est sur la bonne voie et qu'on est dans la bonne direction. Un exemple qui m'a frappé parmi les exemples de dirigeants que j'ai regardés, c'est un monsieur qui s'appelle Ron Johnson, qui était le patron des Apple Store, qui a été l'inventeur des Apple Store, hein, ces magasins très modernes, très innovants, avec énormément de choses radicales par rapport à ce qu'on faisait dans la distribution avant, et qui ont été considérés à juste titre comme un des plus grands succès de l'histoire de la distribution. Donc Johnson gère ça pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on l'appelle pour devenir le patron d'une autre chaîne de magasins, qui pour le coup existe déjà, qui s'appelle JCPenney, qui est une chaîne de grands magasins plutôt milieu de gamme aux États-Unis. Et Ron Johnson est absolument convaincu, et d'ailleurs son conseil d'administration avec lui, qu'il va pouvoir appliquer les mêmes recettes qui ont fonctionné chez Apple. Et il va les appliquer avec une rigueur, une méthode et une détermination absolue. Ce qui fait qu'en moins de 18 mois, il va perdre 25% du chiffre d'affaires, licencier 20 000 personnes et perdre plus de la moitié de la valeur de l'entreprise en bourse.
Une belle réussite pour Superfail.
Pour Superfail, c'est un cas absolument parfait. Pour vous dire jusqu'où c'est allé, certains de ses concurrents présentaient leurs résultats trimestriels qui étaient excellents. Et quand on leur demandait pourquoi, ils disaient franchement, on n'a pas d'autre explication à part le fait que les clientes de JCPenney s'en détournent et viennent chez nous. Et on remercie notre concurrent de se tirer dans le pied avec autant d'acharnement. Donc c'est vraiment qu'on a affaire à quelqu'un qui n'était pas dans la bonne voie. Et pourtant, il continue à dire encore aujourd'hui que si on lui avait laissé plus de temps, ça aurait fini par marcher. Parce qu'il était absolument convaincu qu'il voyait tous les signes que ça allait dans la bonne direction. Par exemple, le plus évident de ces signes-là, c'est que tout le monde lui disait « Ron, on va dans le mur ». Ce qui est assez logique, parce que quand vous êtes en train de perdre 25% de votre chiffre d'affaires, dans une société de distribution, vous avez les résultats tous les jours. Donc, ce n'est pas comme si ça mettait du temps à se matérialiser. Normalement, on le voit. Et que se dit quelqu'un comme lui dans une situation comme ça ? Il se dit « Je suis en train de faire une transformation radicale. Chacun sait que quand on fait une révolution, il faut s'attendre à de la résistance. » Donc plus il y a de résistance, plus ça me dit que je suis sur la bonne voie. Et plus ça me dit aussi qu'il faut me débarrasser de ces gens qui sont des sceptiques et qui ne parviendront pas à mettre en œuvre cette grande transformation. Et donc plus on va résister, plus il va se dire qu'il est dans la bonne voie. Donc on voit bien comment le biais de confirmation peut nous conduire à persévérer dans l'erreur.
Autre biais cognitif, cette fois-ci Olivier Cibony, toujours sur le principe que notre entendement, comme on dit, notre intellect, nous trompe et nous fait prendre des vessies pour des lanternes.
Un autre exemple frappant, c'est, si je reprends la même histoire mais qu'on le regarde de l'autre côté, c'est qu'est-ce qui a pu conduire le conseil d'administration de cette société JCPenney à se dire que Ron Johnson était un sauveur extraordinaire. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls, parce que le jour où Ron Johnson arrive chez JCPenney, le cours de l'action bondit de 17%. Tout le monde est absolument convaincu qu'il va réussir à redresser cette société parce qu'il a des pouvoirs magiques. Il y a même littéralement des citations dans les journaux qui disent « c'est un magicien, tout ce qu'il touche se transforme en or ». Comment est-ce qu'on arrive à croire que quelqu'un, sur la base d'un succès même spectaculaire, est doté de pouvoirs aussi magiques ? En fait, ça c'est une erreur qu'on commet tous, qui s'appelle l'erreur d'attribution, certains disent l'erreur d'attribution fondamentale, qui consiste à penser que c'est ce que nous faisons et qui nous sommes qui détermine les résultats. En réalité, si vous regardez l'histoire de Johnson chez Apple, il a effectivement inventé un format de magasin qui est tout à fait spectaculaire. Mais enfin, il a surtout eu la grande chance d'arriver au moment où Apple lançait l'iPod et de passer 10 ans au moment où Apple a lancé, outre l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Et quand vous regardez la courbe des ventes des Apple Store, elle correspond exactement, bien sûr, au lancement de ces produits phénoménaux. Et quand vous demandez aux gens qui font la queue devant les Apple Store toute la nuit, pourquoi ils font la queue toute la nuit, c'est pas pour admirer le magasin et pour bénéficier de la merveilleuse qualité de service des vendeurs. C'est pour venir acheter ces produits-là. Donc on pourrait quand même assez logiquement se dire qu'une grande partie du succès de Ron Johnson ne tient pas à ses qualités personnelles. Et pourtant, on est tous enclins à penser que le succès d'une entreprise est celui de son patron. L'échec d'une entreprise, d'ailleurs, est aussi celui de son patron. C'est un autre biais assez répandu.
Dans votre livre, vous allez commettre une terrible erreur publiée chez Flammarion, Olivier Cibony. Vous donnez des exemples également de notre entendement et de la manière dont celui-ci se trompe avec les statistiques. Parce que notre cerveau n'est pas particulièrement bien outillé pour comprendre les statistiques. Et donc, on peut avoir des certitudes qui sont des certitudes absolument fausses.
Absolument. Alors, on a une série de biais qui font qu'on est très très bien équipé pour raisonner du particulier et en déduire du général et non pas le contraire. Ce qui est une très bonne manière de se tromper. C'est une manière assez efficace de se tromper. Un exemple frappant, c'est l'histoire d'un gérant de fonds qui s'appelle Bill Miller, qui à la fin des années 90, au début des années 2000, était considéré comme le meilleur gérant de fonds du monde. Alors, vous voyez, un gérant de fonds, c'est quelqu'un qui gère l'argent des gens qui le placent chez lui, en l'occurrence dans une grande firme américaine, et qui chaque année va essayer de faire mieux que son indice de référence. En théorie financière, on se dit qu'au-delà d'une certaine échelle, c'est à peu près impossible de faire systématiquement mieux. Donc si on y arrive, ça ne peut être que de la chance. Si vous y arrivez 2 années de suite, c'est que vous avez beaucoup de chance. 3 années de suite, c'est que vous avez énormément de chance. Bill Miller y est arrivé 15 années de suite. Personne n'avait fait ça avant lui.
Merveilleux.
Et donc forcément, on se dit, c'est merveilleux. Il a dû trouver quelque chose, il doit avoir une compétence extraordinaire. Parce que statistiquement, la probabilité que quelqu'un gagne à pile ou face 15 fois de suite est très très faible. Donc c'est qu'il ne joue pas à pile ou face, donc c'est qu'il a un talent particulier. En fait, quand un statisticien un peu avisé regarde ce problème-là, il se dit que c'est pas du tout la bonne manière de le prendre. La bonne manière de le prendre, c'est pas quelle était la probabilité que Bill Miller, sur ces années-là, réussisse ce qu'il a réussi, c'est quelle est la probabilité qu'à un moment donné, depuis que les marchés financiers existent, sur une période de 15 ans, il y ait un gérant de fonds, parmi les milliers de gérants de fonds qui s'y essayent, qui réussisse 15 années de suite à battre le marché. Et là, quand on le regarde comme ça, en fait, la probabilité est très élevée. L'événement qu'on observe, qui se trouve tombé sur Bill Miller, n'est pas particulièrement surprenant. Si, Bill Miller, d'une certaine manière, c'est Paul le Poulpe. Vous vous rappelez Paul le Poulpe de la Coupe du Monde de football ?
Paul le Poulpe était un poulpe.
Qui était un poulpe et qui avait réussi, en allant choisir...
Je le présente, hein, Olivier.
À quel bout de son aquarium il s'alimentait, qui avait réussi à prédire qui gagnerait toute une série de matchs. Tellement de matchs que ça ne pouvait pas être le hasard. Paul le Poulpe était forcément un poulpe voyant, nous expliquait-on. Évidemment, ça serait vrai s'il n'y avait qu'un poulpe. Mais comme il y a des tas d'animaux qui ont été dressés, des vaches, des hamsters, des souris, qui ont été dressés comme ça à essayer de prévoir les résultats des jeux, et qu'on ne parle jamais de ceux qui ne réussissent pas à prévoir les résultats des matchs, bah en fait, Paul le Poulpe n'est pas du tout une exception, c'est juste celui qui a de la chance.
Et donc, ces différents biais, qui sont des biais que l'on a tous, parce qu'il est difficile donc de réussir à s'en départir complètement. Sur quoi il s'appuie ? Est-ce qu'on comprend, Olivier Siboni, comment cela se fait-il que, même si on a beaucoup réfléchi à un sujet, on peut héberger à son corps défendant un biais de confirmation ou un biais cognitif quelconque ?
Oui, on le comprend tout à fait, et la raison principale, c'est que, en fait, c'est très bon pour nous d'avoir ces biais en général. La terminologie qu'utilise beaucoup de psychologues cognitifs, en particulier Daniel Kahneman qui a écrit un livre là-dessus, c'est le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est notre manière de penser rapide, immédiate, intuitive. Le système 2, c'est notre manière lente, méthodique et appliquée. Et en fait, on va très souvent se servir de notre système 1 qui va souffler des idées à notre système 2 et qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité. C'est ça qui va nous conduire à avoir un certain nombre de biais, mais ces biais sont le revers d'une médaille qui est très importante et sans laquelle on ne pourrait pas vivre. Je prends un exemple. Il y a un biais archi démontré et très frappant, qui est le biais d'excès de confiance. On a tendance à se surestimer. On a tendance à surestimer les chances de succès de ce qu'on entreprend. On a tendance à surestimer nos compétences et nos aptitudes relatives par rapport aux autres. On a tendance à être trop précis dans nos estimations et dans nos prévisions. Bref, on se surestime. C'est donc un biais qui est une source d'erreur prévisible. Mais qu'est-ce qui se passerait si on ne surestimait pas ? Ça serait en fait bien pire. Si on était pessimiste, si on n'était pas entreprenant, si on prenait aucun risque, parce qu'à tout moment on se disait « j'ai beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir », ça serait tragique pour nous en tant que personne et pour la société en général. Donc l'évolution nous a dotés de cette capacité d'optimisme et d'enthousiasme qui fait qu'on va de temps en temps se tromper, mais dont on ne voudrait pas se priver.
Est-ce qu'il y a des recettes particulières, Olivier Siboni, pour justement tenter de prévenir ces biais, lorsque vous évoquez par exemple le système 1 et le système 2 de Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel grâce à ses différents travaux sur les biais cognitifs. Est-ce qu'il y a des manières de s'en méfier qui soient particulièrement efficaces ou que l'on pourrait avoir présentes à l'esprit ?
Il y a des manières de s'en méfier. Et elles ne sont pas particulièrement efficaces, pour la raison qu'on mentionnait en introduction, qui est que vous pouvez réécouter la même illusion auditive 10 fois, vous l'entendrez toujours. Et j'aurais beau vous mettre en garde contre le fait que vous avez des biais cognitifs, vous les aurez toujours. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est avoir, d'une certaine manière, l'humilité de reconnaître qu'on a ces biais cognitifs, qu'on ne va pas arriver soi-même à les corriger, et que donc il faut s'entourer de gens, d'amis, de collègues, de gens en qui on a confiance, qui vont nous aider à prendre nos décisions et qui vont faire en sorte que nos groupes, nos organisations, nos équipes prennent de meilleures décisions qu'on aurait pu le faire individuellement.
Mais alors, parce que donc vous dites que ces gens-là, généralement, les dirigeants d'entreprise notamment, pêchent par un excès de confiance en eux. Et dans le même temps, comme vous dites aussi, Olivier Cibony, si on n'a pas un excès de confiance en soi, c'est compliqué de prendre une décision. Est-ce qu'il y a des petits signaux qui doivent nous alerter dans le cas de l'Apple Store que vous évoquiez tout à l'heure? Bon, on a l'impression quand même que votre camarade qui avait répliqué les recettes de l'Apple Store sur les magasins JCPenney était en quelque sorte quelqu'un qui ne voulait pas voir. Est-ce que la plupart des gens qui se trompent sont avant tout des gens qui ont choisi de se tromper?
Je ne sais pas si on peut dire qu'ils choisissent de se tromper, parce que dans l'exemple, Ron Johnson avait lui-même investi des centaines de millions de sa fortune personnelle qu'il avait gagnée chez Apple dans des actions de JCPenney. Donc il y croyait vraiment. C'est pas qu'il s'est dit, tiens, je vais m'amuser avec l'argent des autres.
J'ai pas dit que c'était un saboteur.
Non, mais c'est ça. Mais c'est pas non plus qu'il prend des risques inconsidérés parce qu'il se dit, bon, on verra bien.
Je vais reformuler ma question. Si une diminution de votre chiffre d'affaires est la preuve que votre recette marche, quel serait en quelque sorte le signe d'un véritable échec? C'est ça, en fait, qui peut paraître problématique. C'est que dans ce type de raisonnement-là, en fait, il n'y a pas de véritable test de l'échec et de la réussite d'une recette.
Absolument. C'est bien le signe qu'on n'a pas un raisonnement rationnel. C'est qu'on n'est pas en train de chercher. Le raisonnement rationnel serait celui que vous décrivez, qui est de chercher qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'on se trompe. Et seulement à partir du moment où on ne le trouve pas, de se dire qu'on doit être sur la bonne voie. Quand on regarde les signaux en cherchant ce qui nous dit qu'on a raison, c'est qu'on n'est en général pas sur la bonne voie. Il y a un signe d'ailleurs qui est assez probant en général quand on est dans cette situation-là, c'est le fait que tout le monde soit d'accord avec vous. Si vous êtes dans une équipe et que tout le monde est d'accord avec vous et que vous n'avez aucun dissensus sur une décision qui est compliquée, évidemment pas sur des choses qui sont évidentes, c'est pas bon signe.
Et sur le plan politique, puisque vous évoquez ces décisions donc de managers, qui sont des décisions de managers qui utilisent des biais cognitifs. Est-ce que la même chose existe pour d'autres décisions, Olivier Cibony?
La même chose existe dans toutes les décisions, que ce soit nos décisions personnelles, que ce soit les décisions politiques, que ce soit des choix de quelque sorte que ce soit. Dès le moment où on a des êtres humains qui prennent des décisions, ils vont être sujets à ces biais cognitifs. Dans des contextes politiques, ça va être accentué par le fait qu'on n'est pas toujours dans des organisations qui partagent des... Où tout le monde partage les mêmes objectifs, on va dire. C'est-à-dire que, dans tous les sens du terme, on peut faire de la politique. Donc vous pouvez parfois, peut-être plus souvent que dans une entreprise, être entouré de gens qui n'ont pas intérêt à ce que vous réussissiez. Ce qui va compliquer encore un petit peu les choses.
Ce qui veut dire aussi d'ailleurs, mais là on est dans d'autres registres, que lorsque je disais choisir de se tromper, je voulais dire par là que le test que ce monsieur Ron Johnson utilisait pour savoir s'il avait raison ou tort n'était pas le bon. En politique, par exemple, certains critères ne sont pas les bons. Par exemple, vos amis ne sont pas vos amis.
Vos amis ne sont pas vos amis, les sondages n'ont pas toujours raison. La difficulté qu'on a en politique, je crois, pour comparer ça avec le type de sujet dont je parle, c'est que la finalité n'est pas forcément quelque chose sur laquelle on est d'accord. C'est-à-dire, au fond, quand vous êtes le patron d'une entreprise, tout le monde est à peu près d'accord sur ce que vous cherchez à faire. Vous cherchez à faire des profits, vous cherchez à développer l'entreprise, vous cherchez à créer de la valeur pour vos actionnaires. Ce qui n'est pas forcément le cas en politique, et ça va compliquer beaucoup les choses, parce qu'on peut être en désaccord non seulement sur les moyens d'atteindre ces objectifs, mais sur les objectifs eux-mêmes.
Il y a quand même des méthodes, Olivier Cibony, pour tenter d'échapper à ces biais cognitifs.
Il y a des méthodes pour y échapper, à condition de commencer par admettre, paradoxalement, qu'on ne va pas y échapper. C'est-à-dire que dès le moment où j'accepte que j'ai des biais cognitifs, je vais devoir accepter de m'entourer de gens en qui j'ai confiance, qui en ont aussi, mais pas forcément les mêmes que moi. Et si j'arrive dans ce collectif, dans cette équipe, à avoir une méthode de travail qui va nous permettre d'exprimer la diversité de nos idées, de les confronter avec des faits, avec des analyses, et de parvenir ensemble à ce qui est la meilleure décision, j'ai de grandes chances de parvenir à prendre de meilleures décisions que si je suis tout seul et que je me dis que je suis formidable.
Merci beaucoup Olivier Cibony, je recommande donc votre livre. Vous allez commettre une terrible erreur, je n'irai pas jusqu'à dire que nos auditeurs vont commettre une terrible erreur s'ils ne lisent pas votre livre, mais en tout cas, il est publié aux éditions Flammarion.
Merci.
Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Pascal Baudin à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation.
Superfell.